va parler de speedrun. J'ai des super invités. Je suis avec Pipo, c'est merveilleux. Donc moi, c'est Lady Nin, Jennifer Gamblin de mon prénom. Je suis membre de MO5. Je suis aussi sociologue du jeu vidéo, en fin d'études, puisque je passe mon master cette année. Et je suis aussi rédactrice en chef de psychéclic.com, qui est un média qui fait de la psychosociologie du numérique, avec un collègue qui s'appelle Jean-Paul Santoro, qui est psychologue clinicien. Voilà pour les présentations. Avec nous ce soir, on a Niniste, qu'on ne présente plus, mais que je vais laisser se présenter.
Alors moi, je suis Niniste, je suis streameuse, speedrunneuse, primo-youtubeuse dans l'univers du jeu vidéo. Je me suis spécialisée dans le speedrun de Super Mario 64, avec comme objectif de speedrunner tous les jeux Mario, que ça soit récent ou plus ancien. Et je vis du stream depuis une bonne année et demie, on va dire.
Ah, ça, voilà. C'est super. Sacha, c'est à toi. Présente-nous un petit peu qui tu es et puis d'où tu viens.
Je m'appelle Sacha, donc j'ai 32 ans. Je suis chercheur au Liège Game Lab à l'Université de Liège, donc doctorant en fin de troisième année. Et ma thèse porte sur le speedrun et comment, pour essayer de le dire en une phrase, comment les speedrunners transforment, on va dire, leur expérience de jeu en expertise informationnelle. C'est ce que j'essaye de comprendre dans mon travail de recherche. Et accessoirement, j'occupe une fonction à temps plein au sein de l'éducation nationale, qui est celle de professeur documentaliste ou dame du CDI pour les personnes qui ne sauraient pas identifier qu'est-ce que un professeur documentaliste.
Nous avons aussi notre super camarade de la MOS5, Pipo, avec nous. Pipo, à toi de jouer, je te laisse te présenter.
Ah bah écoute, moi c'est toujours Pipo, toujours membre de MO5 depuis quelques années maintenant, toujours auteur très occasionnel en ce moment, et mon rédac chef va me détester pour ça, dans le mag de MO5.
Et si on commençait du coup par une petite définition du speedrun, j'en ai fait une, et ensuite on en parle. Ça vous va comme proposition ?
Très bien.
Ouais. Alors, le speedrun est une pratique du jeu vidéo qui détourne la manière classique de jouer à un jeu vidéo pour permettre des performances spécifiques liées en général à la vitesse. Elle peut s'accompagner d'autres objectifs comme le fait de remplacer la manette par des bananes par exemple. En somme, le speedrun vient de la compilation des mots speed et run. Une run, c'est une partie de jeu vidéo.
En termes de définition, moi je parle plutôt d'un objectif à atteindre au sein d'un jeu vidéo, parce qu'on a aussi des speedruns dont le but n'est pas de terminer le jeu. Je pense par exemple les sanctuaires dans les Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, les missions des confréries dans Skyrim, on a les cascades automobiles dans GTA V. Enfin bon, voilà. Évidemment que l'objectif le plus souvent, ça va être de terminer le jeu, mais il y a quand même des speedruns qui existent. C'est un objectif qui est autre que terminer le jeu. Donc moi, je préfère, en tout cas dans mon travail de recherche, parler d'objectifs à atteindre. Effectivement, j'aime bien l'expression aussi vite qu'un joueur ou qu'une joueuse en est capable, parce qu'en fait le plus rapidement possible supposerait que pour publier sa performance il faut forcément avoir le record du monde, alors que c'est pas du tout vrai. On observe dans les classements que les gens postent leur performance alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont 20e, 30e, 100e, 200e. Donc là-dessus, s'il n'y a pas besoin d'être le plus rapide, il faut déjà il faut s'adapter à ses propres limites, en fait. Donc on se réfère plutôt à son propre référentiel temporel, et puis après, effectivement, le cadre dans lequel s'exécute la performance, elle est soit imposée par la communauté pour que la compétition soit évidemment égal pour tout le monde, mais ça peut aussi être un speedrun complètement inventé par le joueur. Dans ce cas-là, on est plus dans du divertissement que dans de la compétition. Je dirais qu'il y a vraiment trois éléments à retenir. C'est vraiment l'objectif à atteindre, le référentiel temporel que s'impose le speedrunner ou la speedrunneuse, et puis le cadre dans lequel s'exécute cette performance, qui permet après de définir, voilà, pour être un peu plus exhaustif sur ce qu'est un speedrun.
Je me permets, tu fais très bien de préciser le côté communautaire, parce que c'est une pratique qui a... Alors, peut-être que vous faisiez déjà, sans le savoir, des speedruns chez vous quand vous étiez petit, en recommençant en boucle un jeu, parce que c'était le seul que vous aviez potentiellement quand vous étiez plus jeune. Mais la particularité aussi du speedrun, c'est que ça reste une pratique qui est relativement, fondamentalement communautaire.
Oui.
Effectivement. Je propose qu'on laisse Sacha nous faire un petit historique du speedrun, parce que c'est quelque chose qu'il a bien travaillé dans son travail de thèse et qu'il maîtrise parfaitement. Je te laisse nous faire un petit cours d'histoire du speedrun.
Alors, je vais essayer quand même d'être un peu synthétique pour pas monopoliser la parole, mais si après il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Donc en fait, moi je me suis demandé, mais la vitesse comme dispositif ludique, en fait ça date de quand, et c'est quelque chose qui est quand même relativement ancien. On a les courses de chars dans la Rome antique, les épreuves de course aux Jeux olympiques dans la Grèce antique. Donc c'est quand même un dispositif ludique et très ancien. Et c'était normal que ça soit transposé dans le jeu vidéo assez tôt, dans les années 70, avec le contre-la-montre, les premiers jeux de course automobile, les jeux où on impose un cadre temporel aux joueurs, etc. Donc ça vient assez tôt, en fait, dans le jeu vidéo. Et puis dans les années 80, même si c'est pas forcément la décennie du speedrun, parce que c'est surtout le high score qui domine les performances vidéoludiques, mais on observe, on va commencer à médiatiser les performances des joueurs, et on va créer du spectacle aussi autour de la performance des joueurs. On a des exemples, par exemple, comme Activision, qui diffusait à travers des bulletins d'information qui étaient envoyés par courrier à l'époque, hein. Enfin, je veux dire, le mail n'était pas encore disponible, et qui racontait un peu les coulisses de l'entreprise, les futures sorties. Et puis, il y avait toute une partie sur les performances de leurs joueurs, les meilleurs scores, mais aussi les meilleurs temps sur quelques jeux, comme un jeu de dragster ou un jeu de ski. Donc là, on a le début, en fait, de la médiatisation des performances. On les publie, on les diffuse, enfin, etc. Et puis, il y a des organisations comme Twin Galaxy qui va continuer à sur ce chemin-là. Même s'ils ne se sont pas trop intéressés au speedrun, ils ont quand même participé à la médiatisation des performances vidéoludiques. Et puis, on va aussi créer du spectacle autour des joueurs. On a une émission de télé, notamment en 83, où on met en compétition trois joueurs. Et ben, c'est les plus rapides qui l'emportent. On a le Nintendo World Championship en 90. On a aussi des films pour les nostalgiques de l'émission Crust par Karine Debache. Il y a le The Last Starfighter et The Wizard qui mettent en scène deux héros dont la caractéristique principale c'est d'être quand même extrêmement fort aux jeux vidéo, et tout le schéma narratif s'organise autour de ça, en fait. Donc on a vraiment une décennie où on va médiatiser les performances, créer du spectacle autour de ça, et pour le dire en une phrase, la performance devient une information, en fait. Et puis dans les années 90, on observe quand même une rupture assez importante, parce que là les joueurs vont pouvoir, grâce notamment à deux jeux qui sont assez importants dans le speedrun, dans l'histoire du speedrun, qui sont Doom et Quake, où là on va pouvoir en fait donner la possibilité aux joueurs d'enregistrer des sessions de gameplay et de les diffuser ensuite sur internet. Et à partir de là, en fait, le speedrun devient un objet documentaire, c'est-à-dire qu'on peut s'échanger les performances, donc ça veut dire qu'on peut les analyser, les étudier. On peut poser des questions à ceux qui les ont faites, etc. Et en fait, on va commencer à mutualiser des ressources intellectuelles autour des performances. Et c'est là aussi que la pratique devient collaborative dans les années 90. Et elle le devient immédiatement, en fait. Dès que les communautés en ligne se forment, on va mutualiser des ressources. Mais ça ne veut pas dire que la pratique, tout d'un coup, explose et tout le monde se met à faire du speedrun et à le diffuser. Je rappelle qu'on est dans les années 90. Donc, en 97, capturer sa Nintendo 64 et diffuser sa performance sur Internet, c'est de la science-fiction, littéralement. Donc c'est encore un peu compliqué, mais c'est vraiment, moi je mets vraiment dans les milieux des années 90, le début du speedrun moderne, notamment avec Quake Don't Quick en 97, qui est un speedrun du jeu Quake, où là on a vraiment tout ce qui fait le speedrun moderne encore aujourd'hui. J'ai vu récemment cette performance et j'étais très étonné, notamment de voir que dans la vidéo, il y a des commentaires du style, donc c'est du texte en fait qui est ajouté par-dessus la vidéo, et qui dit « bah là, regardez, il va se passer un truc de ouf ». Et en fait, c'est une rhétorique qu'on retrouve même encore aujourd'hui dans les commentaires de speedrun en 2024. Donc il y a vraiment de l'ADN, moi je trouve, de Quake Don't Quick dans tous les speedruns qui peuvent exister. Et comme je disais, effectivement, la pratique a encore du mal à vraiment exploser. Et puis surtout, les pratiques ont du mal à quitter le cadre communautaire. Ça reste vraiment des choses qui sont... Enfin, les speedruns de Quake, c'est les speedrunners de Quake qui les regardent, c'est pas le grand public. Là, il faut attendre un peu plutôt le milieu des années 2003-2004. Et notamment en 2003, il y a un tool assisted speedrun. Donc là, c'est une autre forme de speedrun où c'est un speedrun qui est fait à l'aide d'outils. Avec un émulateur, on va pouvoir jouer image par image, on va pouvoir créer des save states, donc c'est-à-dire des points de sauvegarde qui n'existent pas initialement dans le jeu, pour pouvoir ensuite après créer la performance la plus entre guillemets parfaite possible. Et en 2003, il y a une de ces performances qui connaît un vrai écho médiatique important, qui fait un peu le buzz, comme on pourrait dire. Donc c'est un tool assisted speedrun de Super Mario Bros 3 qui a été publié publiée par un japonais en 2003. Et cette performance est très diversement reçue. Il y a des gens qui sont impressionnés par la performance, mais il y en a beaucoup d'autres qui accusent Morimoto d'avoir triché, que c'est sans intérêt de faire ça. Donc il y a encore une pratique qui a du mal à trouver son public, et il faudra attendre après 2004 avec Speed Demos Archive et 2006 avec tasvideo.org pour que tout ce travail pédagogique qui est ensuite prolongé en France et en francophonie par Speed Game en 2011 et 88 miles à l'heure en 88. Oui. Et puis les années 2010, c'est aussi les années du streaming, et là ça révolutionne complètement la pratique, parce que avant on ne publiait que ce qu'on réussissait, mais maintenant tout est un contenu, en fait, de la découverte du jeu jusqu'à la publication de son PB, en passant par les entraînements pour maîtriser un glitch, par la recherche de glitch, etc. Donc là, on voit tout le processus de fabrication, ce qui permet de fiabiliser les performances auprès des gens qui auraient été un peu sceptiques, de montrer que c'est pas non plus très sorcier de faire du speedrun, c'est juste ça demande un investissement. Twitch a vraiment révolutionné, pour le coup, je pense, la pratique. Et puis Discord en 2015, qui va venir un peu moderniser les moyens de communication et surtout les simplifier. Avant, il fallait créer des forums, il fallait administrer des trucs, ça demandait un peu des ressources techniques pour programmer des sites, etc. Là, Discord, ça se fait de manière très simple. Et donc, voilà à peu près ce que j'avais noté. On a même aujourd'hui des... je terminerai là-dessus. Les constructeurs, Sony, Microsoft, Nintendo, qui encouragent, alors pas forcément à speedrunner, mais à créer du contenu autour de leurs jeux. Je sais que sur ma PlayStation 4 et ma PlayStation 5, il y a littéralement un bouton sur ma manette qui s'appelle partager. Donc, si je veux faire un clip vidéo, j'envoie ça, ça prend 30 secondes. Je sais que sur Switch, c'est possible aussi. J'ai une manette Microsoft pour qui est même pas une vraie manette Microsoft, pour mon PC, j'appuie sur un bouton, ça fait une vidéo. OBS, c'est un logiciel qui est gratuit, Xsplit aussi, enfin bon, bref. Aujourd'hui, alors je sais pas si c'est parce que je fais mon travail de recherche sur ça, mais je suis assez étonné de voir que le mot speedrunner est utilisé dans des contextes en dehors du jeu vidéo pour simplement désigner le fait de faire quelque chose rapidement. Et je trouve que quand une pratique commence à devenir un verbe, ça veut aussi dire qu'elle commence à rentrer dans l'imaginaire collectif, et je trouve que c'est un signe très positif. Donc voilà à peu près pour l'histoire du speedrun.
Est-ce que quelqu'un voudrait préciser la différence plus fondamentale? Parce que là, ce que tu as dit, Sacha, c'est que tu as défini le TAS comme un speedrun avec outils, mais le speedrun a déjà des outils. Mais c'est juste que, est-ce que tu pourrais un tout petit peu plus préciser, comme ça, pour bien que les gens comprennent, où se situe le débat entre les gens qui disent que le TAS, c'est pas du speedrun, ou pire, c'est pas du jeu vidéo.
Déjà, ils se trompent, évidemment, que le TAS reste du jeu vidéo, parce qu'il y a évidemment plusieurs manières de jouer, que chacun joue comme il en a envie. Quand je parle d'outils, disons que ce sont des outils qui ne sont pas internes au jeu, dans le sens où on va beaucoup utiliser l'émulation. Et c'est même, je crois, quasiment que de l'émulation, le Tool Assisted Speedrun. Et on va, du coup, s'aider d'outils qui ne sont pas normalement utilisés en jeu. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, pouvoir programmer les touches qu'on va presser image par image. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normalement possible quand on joue à peu près, entre guillemets, normalement. Et on va pouvoir faire des combinaisons de touches qui sont humainement impossibles. On va aussi avoir des outils qui vont permettre de créer, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle des save states, c'est-à-dire des points de sauvegarde qui initialement n'existent pas dans le jeu, pour pouvoir justement faire des essais, revenir en arrière, rechanger les inputs qu'on va presser, etc. On peut jouer au jeu au ralenti, on va avoir en fait des outils qui vont modifier la manière dont le jeu se déroule. Et c'est plus, je pense, le TAS, quelque chose qui se rapproche de la programmation informatique. Moi, je trouve que ça reste une pratique qui n'est pas concurrente au speedrun, parce qu'on voit qu'il y a des passerelles quand même des fois entre les deux. Il y a des techniques qu'on découvre en TAS et qu'on imagine possible qu'en TAS, mais qu'en fait, on arrive à refaire en conditions réelles. Voilà, il y a des passerelles que je trouve assez intéressantes entre les deux.
Merci pour cette précision. Effectivement, du coup, c'est Tool Assist Speedrun, c'est ça ?
Assist, oui.
Tool Assisted Speedrun.
Pardon.
L'idée, en gros, c'est ce que Sacha l'a bien décrit, hein, c'est que fondamentalement, l'optimisation que tu recherches, une des manières d'envisager le speedrun, c'est de trouver, moi j'appelle ça la partition parfaite d'input, qui va te permettre de griller la priorité au niveau du jeu, mais à un niveau qui est habituellement pas accessible en tant que joueur qui fait les manipulations.
Le TAS ne fait pas perdre son charme au speedrun et aux jeux vidéo parce que le TAS te permet de voir où sont les failles du jeu. Ça te montre vraiment à quoi peut ressembler le speedrun parfait, sachant pertinemment qu'il y a des tas de choses qui ne seront jamais faisables à la manette, à la main humaine. Ça sera jamais possible. Mais en cherchant et en fouillant bien, tu as des gens qui arrivent et qui se disent, si le TAS est capable de le faire, alors je vais chercher, je vais fouiller, je vais forcer et je vais trouver une façon de pouvoir le rendre faisable à la manette. Je pense notamment forcément à des exemples que je connais parfaitement, et là je vais reparler de Mario 64. Mario 64, c'est un jeu qui a... c'est l'un des jeux les plus speedrunnés de tous les temps, hein. Donc il y avait un glitch qui était jusqu'à présent irréalisable sur Mario 64 dans l'un des derniers niveaux du jeu. Il était réalisable que en TAS, et donc c'était le fait d'aller tout en haut du niveau qui s'appelle la route arc-en-ciel sans utiliser les tapis volants, donc le carpetless. Le jeu, je rappelle, il a 28 ans. Il y a 3 mois de ça, il y a un joueur qui a réussi à faire ce carpetless et à le rendre réalisable avec toute une petite série de manipulations, etc., à le rendre réalisable par qui avait envie de s'y tenter. Donc maintenant, il y a des tas de joueurs qui le font, alors qu'à la base, ce n'était que quelque chose qui était faisable en TAS, donc pas du tout à la main. Donc le TAS permet de voir où sont les failles et permet de voir ce qui est possible d'éventuellement faire en speedrun. C'est le speedrun parfait, entre guillemets.
Sur un autre Mario, donc sur Super Mario Bros, le speedrun manuel, le speedrun, c'est nourri, en fait, de l'avancée du TAS. En fait, donc le TAS est à 4, alors j'ai plus le temps en tête exactement, mais en dessous de 4 minutes 50 pour finir le jeu. 4 minutes 53, c'est celui qui est fait à la main,
ouais,
en Nifty. Et il y a un TAS qui est plus rapide que ça. Et en fait, justement, les joueurs qui couraient après le record du monde de Super Mario Bros ont étudié et ont cherché à comprendre, aidés par des tasers, de quel type de manipulation pouvait être fait pour réaliser certains glitches que l'on pensait tout à fait irréalisables à la main. Et finalement, les derniers records qui ont sauté relativement récemment dans Super Mario Bros, eh bien en fait, c'est parce que les joueurs ont réussi à exécuter à la main des choses qui étaient auparavant, qu'on pensait tout à fait possibles uniquement dans le TAS. Donc, moi, je ne peux que te rejoindre à 200, à 300, à 500% sur le fait que le TAS et le speedrun se nourrissent l'un l'autre. Et c'est pour ça que le procès qui est fait quasi systématiquement du fait que le TAS, c'est pas du jeu, ça me rend dingue, parce que je pense qu'il y a une chose que les gens qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas bien le TAS n'ont pas en tête, c'est le travail qu'il faut fournir pour avoir justement la partition parfaite pour ton TAS.
C'est un travail de recherche, hein.
Pour compléter un peu la discussion sur le TAS, c'est aussi une pratique qui est peut-être plus propice au divertissement que... Parce que on peut avoir des TAS qui sont vraiment très portés sur l'humour, mais vraiment et sur le plaisir de faire du mal à l'intelligence artificielle, en particulier. Je pense par exemple à un jeu comme International Super Soccer Deluxe, où on a littéralement la possibilité de marquer 99 buts à l'intelligence artificielle sans aucune difficulté. Donc c'est aussi une pratique qui, comme elle porte beaucoup sur l'émulation, touche beaucoup en fait des jeux qui sont, on va dire, jusqu'à la PS2. Et encore, on a quelques tas sur PlayStation 3, mais c'est vraiment, là, ça commence à être rarissime. Et bon, bah, après, PlayStation 4 et PlayStation 5, pas du tout.
Oui, c'est très porté sur le rétro.
C'est très porté sur le rétro gaming. Un des derniers tas que j'ai vu d'un des jeux peut-être les plus récents, c'est sur un Ratchet & Clank, la trilogie qui était sortie sur PlayStation 3. Enfin, ça donne à peu près l'idée à quel point c'est difficile de faire du tas sur les jeux, on va dire, post PlayStation 2, Xbox et Nintendo 64. GameCube et Wii, c'est encore peut-être un peu plus facile, puisque les consoles de Nintendo sont peut-être un peu plus simples à émuler. Tout ça pour dire qu'en fait, le TAS est très propice au divertissement, à l'humour, à la blague du jeu vidéo, et touche beaucoup plus le rétro gaming que le jeu on va dire, moderne. Même si on a des tas sur des jeux récents, il y a des tas sur Super Meat Boy, par exemple, sur Céleste, qui existent, mais qui restent minoritaires par rapport aux speedruns classiques sur à peu près les jeux. Dès qu'ils sortent, on a des speedruns sur le jeu, quoi. Donc, et si vous voulez un tas assez rigolo, enfin, moi, que je trouve très drôle, c'est un tas sur Mario Kart Wii. Donc, et en fait, le taser termine toutes les courses du jeu, donc je crois qu'il y en a 32, sans jamais appuyer sur le bouton d'accélération. Il fait de la marche arrière, il récupère les objets. Évidemment, tous les objets lui sont favorables et c'est très très drôle.
Un autre truc très drôle, c'était Mister. Moi, j'ai connu le Taz par Mister MV qui avait une émission, mais alors il y a quelques années, qui s'appelait Les Secrets de Tazer. Les Secrets de Tasseur, en fait. Il chantait un générique qui était Les Secrets de Tasseur. Où voilà, où il y avait vraiment des choses. Enfin, le générique en soi est déjà assez délirant. Justement, à propos du TAS et du fait qu'on joue et qu'on essaye des choses étranges, c'est vrai que on voit que souvent dans le TAS, comme si vous voulez, on est un peu comme si on maîtrisait la matrice. Et du coup, les programmeurs de TAS, les joueurs de TAS, peu importe comment vous voulez les appeler, ont tendance à chercher des choses relativement esthétiques, habituellement, pour faire ces choses-là, mais aussi à faire des trucs complètement absurdes. Comme on peut, alors, est-ce que c'est un speedrun ? En tout cas, c'est tout l'assisted, mais si c'est un speedrun, je n'en sais rien. On peut parler de la run sans appuyer sur le bouton A de Mario 64. Tu veux en dire quelques mots, Niniste ?
Oh non, je te laisse le plaisir de présenter cette torture, si tu as envie d'en parler.
en fait, c'est une... Alors, juste pour la blague, c'est que la touche A dans Mario 64, c'est la touche pour sauter. Et en fait... Il s'avère que les tasers se sont mis une limite totalement délirante qui consiste à dire est-ce qu'on peut finir Mario 64 sans sauter ? Et là, forcément, pour pouvoir y arriver, vous vous imaginez bien que l'idée, c'est d'aller creuser le code, la structure, ce que vous pouvez faire avec le jeu et qui n'utilise pas le bouton pour sauter. Parce que, par exemple, dans les méthodes habituelles pour speedrunner Mario 64, bah évidemment, il faut sauter. On peut parler du backward long jump, mais on en parlera un petit peu plus tard. Eh bien, là, l'idée, c'était de dire, est-ce que je peux trouver quelque chose, quelle série d'inputs va me permettre d'arriver au bout ? Eh bien, figurez-vous que alors, est-ce qu'on peut appeler ça un TAS ? Je ne sais pas. Mais cette run existe et elle dure 86 heures.
Moi, personnellement, je la qualifierais pas de speedrun. Voilà, je le dis. Je pense que c'est plus une run à contrainte.
Alors, c'est quelque chose qui se fait. Hein, tu as le speedrun et à côté, tu as ce qu'on appelle le challenge running. Ça va être des contraintes, comme tu dis, d'autres contraintes. Qui peut être chronométré ou non, ça s'apparente au speedrun. C'est un petit peu comme si le challenge running était une grande famille et que dans cette famille tu avais plusieurs lignes qui se séparaient, dont le speedrun, le challenge running, etc. Le speedrun est une branche en fait du challenge running et le challenge running c'est par défaut de se mettre des contraintes comme tu disais et notamment des contraintes de temps ou alors des contraintes de ne pas appuyer sur un bouton A par exemple.
Ou jouer avec des bananes.
Mais après, cette run où on faut pas appuyer sur le bouton A peut devenir un speedrun si jamais quelqu'un souhaite reprendre ce challenge et se dire bon bah je vais essayer de faire un meilleur temps. Mais c'est vrai que là
85 heures.
C'est vrai qu'en fait là on se rend compte 86 heures. Enfin je veux dire on se rend bien compte que le but c'était pas d'être le plus rapide ou quoi. Et c'est vrai que la frontière est parfois un peu délicate entre, on sait pas trop si c'est du speedrun ou si c'est des challenges running, mais bon voilà, là je pense qu'on est plus dans une run à contrainte, c'est-à-dire ne pas sauter, comme on peut avoir des runs où il faut pas récupérer de pièces, il faut pas tuer d'ennemis, ce genre de choses.
Moi je pense que c'est étroitement lié, c'est pas forcément la même chose, mais c'est très très étroitement lié. Les speedrunners en général font du challenge running. Le fond vraiment des deux, c'est le même. C'est de prolonger la vie de son jeu, c'est du côté compétitif avec soi-même, c'est de vouloir toujours plus, de voir jusqu'où il peut aller.
Effectivement, ça nous permet de rebondir sur justement le premier point que je voulais aborder sur le speedrun, qui sont du coup, quels sont les enjeux du speedrun ? quels sont du coup selon vous les enjeux autour du speedrun? J'ai noté en fournissant aux speedrunners davantage de visibilité et d'outils de diffusion, la pratique s'est développée et a permis de nouveaux enjeux. Quels sont-ils selon vous? Quels étaient-ils? Quels sont-ils? Est-ce que ça a évolué?
Bah écoute, je disais que le speedrun et le challenge running, c'était quelque chose d'étroitement lié parce que l'idée, l'enjeu principal, c'était de prolonger la vie. Je pense prolonger la vie de ton jeu préféré. Tu vas notamment avoir sur des jeux solo peut-être une petite frustration quand tu l'aimes beaucoup de pas. Tu vas le faire une fois, tu vas le faire deux fois et après tu vas être un peu frustré parce que il y a pas de suite, il y a pas forcément 1000 DLC sur un jeu qui est sorti il y a 20 ans ou à partir du moment où ton jeu il est sorti, il est fait, il y a pas forcément d'autres DLC qui vont sortir à droite à gauche. Donc tu vas chercher sur les jeux solo, je précise, à rejouer à ce jeu mais de manière différente et c'est là que le speedrun arrive puisque du coup tu vas dire je veux faire ce jeu que j'aime tellement et je veux voir en combien de temps je suis capable de le faire. Donc tu fais ça pour toi, tu fais le temps que tu as envie de faire au début, le temps que tu es capable de faire et parfois, certaines personnes vont vouloir pousser un petit peu plus sur le côté record compétitif en se comparant avec d'autres, mais toujours dans la bienveillance. Hein. C'est pas quelque chose qui est malsain. C'est une compétition qui est très très bienveillante et c'est vraiment pour le plaisir de se comparer, toujours essayer de faire mieux, donner des conseils aux autres, se rendre compte aussi que nous ne sommes pas seuls dans cette petite communauté de speedrunners et qu'il y a d'autres gens qui ont eu le même délire chelou de vouloir continuer à jouer à ce jeu, peu importe le jeu, hein, au final tout est speedrunnable et même hors jeu, hein, on peut speedrunner le fait de faire ses courses à Intermarché, ça speedrun aussi. Donc tout se speedrun et les gens adorent speedrunner leur jeu préféré. Je pense que c'est naturel que quand on joue à un jeu, ça finisse par partir là-dessus.
Pour compléter ce que disait Ninis, je pense qu'il y a des enjeux qui évidemment vont varier selon les individus et les contextes, et je pense qu'il y a aussi des enjeux qui vont dépasser les individus. Je pense que le speedrun, par exemple, pose très sérieusement la question de la libre circulation de la connaissance et de la connaissance comme bien commun, en fait. Puisque l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde y ait accès, que tout le monde puisse comprendre, etc. Et que en somme, les gens aient tous les outils nécessaires permettant de speedrunner. Donc ça, c'est par exemple un enjeu qui est assez important pour le speedrun, c'est la question de la connaissance comme bien commun, en fait, tout simplement. Et puis, oui, comme le disait Niniste, il y avait un enjeu à maintenir une compétition saine entre les joueurs et les joueuses, parce que justement, si la compétition est saine, ça facilite l'accès à la connaissance, alors que si c'était quelque chose d'assez malsain et toxique, bah, les gens se partageraient pas forcément les connaissances comme ça, et puis là, de toute façon, le speedrun n'aurait peut-être pas le même intérêt si c'était comme ça. Et puis je pense qu'il y a des enjeux qui s'inscrivent aussi dans un contexte peut-être plus global par rapport à l'industrie vidéoludique, notamment sur les normes de consommation du jeu vidéo. Quand on regarde, par exemple, les pourcentages de trophées ou de succès que les joueurs ont, on constate que majoritairement, les joueurs ne terminent pas les jeux. Donc là, on a une pratique où le but, c'est de terminer le jeu plusieurs fois par jour quand on essaie d'avoir des PB. Donc voilà, il y a aussi la question et tout ce qui va concerner la préservation de et d'un côté l'objet jeu et de l'autre côté l'activité vidéoludique liée à cet objet jeu. Donc ça fait partie aussi des enjeux, je dirais, patrimoniaux un peu du speedrun. Et puis quelque chose peut-être un peu technique qui va être le fait que la sémantique du ludique, c'est-à-dire ce que ça signifie, ne soit pas uniquement dictée par les développeurs et les éditeurs, mais que les joueurs, via leur pratique, aient aussi leur mot à dire sur qu'est-ce qui est ludique. Je pense que c'est très important.
C'est un développement du jeu, finalement, ce que tu viens de nous dire. Et c'est aussi une manière de jouer.
Comme disait Niniste, il y a l'idée de vouloir déjà prolonger son rapport et son histoire avec un jeu. Il y a des jeux qui vous ont paru absolument abominables, extrêmement longs, sur lesquels vous avez passé peut-être seulement des dizaines, mais vous avez eu l'impression d'y avoir passé un temps absolument indu. pour arriver au bout. Et en fait, quand vous voyez des speedrunners qui arrivent à tordre des choses qui vous ont donné des sueurs froides en un quart d'heure, il y a une double postulation de se dire, mais en fait, j'étais vraiment nul comme joueur. Et il y a l'autre point de se dire, mais en fait, c'est faisable.
Il y a un côté très cathartique parfois dans le speedrun. Moi, j'aime beaucoup, notamment, pas pour en revenir aux tasses, j'aime beaucoup les tasses des jeux de combat parce que c'est généralement des jeux qui m'ont beaucoup malmené quand j'étais plus jeune, et de voir le jeu se faire éclater, c'est assez cathartique et c'est assez intéressant, justement, cette posture de... Mais même chez les speedrunners qui reviennent, enfin qui galèrent sur un jeu quand ils sont petits et ils reviennent 15-20 ans plus tard en tant que speedrunner et ils disent, bon bah là maintenant, c'est moi qui vais... qui est de faire souffrir. Donc il y a un côté cathartique assez rigolo.
Et justement, dans ce côté cathartique et la manière dont tu présentes la chose, Sacha, c'est que, et ça c'est le dernier point que tu présentais dans ton intervention juste avant, c'est la manière en fait de finir par dicter soi-même les règles au jeu. Parce que finalement, un des points importants du speedrun, sur lequel en fait il y a un article qui a maintenant plus d'une dizaine d'années, de Fanny Barnabé, qui explique bien que la particularité, c'est une des particularités, c'est de se réapproprier le jeu, c'est de pratiquer le jeu d'une manière qui n'a pas été ou mal été prévue par les développeurs, en utilisant tout un tas de méthodes et de, comment j'appellerais ça, d'outils spécifiques. Alors quand je parle d'outils, je parle pas d'outils informatiques, mais je parle de types de pratiques ou de compréhensions qui vont vous permettre d'imprimer vous-même votre rythme au jeu. Je parle des glitches, je parle des out of bounds, je parle des éjections, je parle de toutes ces choses-là. C'est souvent des choses que les développeurs savaient ou ne savaient pas, qu'ils ont essayé de passer sous le tapis, et en fait les joueurs se sont dit, mais si c'est dans le jeu, j'ai le droit.
Exactement.
Dans les catégories, on observe aussi différents profils de speedrunners. On parlait des glitches et des catégories glitchless. Et on voit bien que sur certaines catégories, on va trouver des speedrunners qui vont pas forcément speedrunner l'autre catégorie avec des glitches ou avec sans glitch. Parce qu'il y a aussi un rapport au jeu qui là encore est très personnel. Il y a des speedrunners qui vont essayer de performer, de speedrunner en se rapprochant le plus possible d'une expérience de joueur, on va dire entre guillemets, ordinaire. Et puis il y a des joueurs qui vont préférer les catégories glitchées parce qu'ils préfèrent l'exécution parfois un peu rigoureuse. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir déjà la diversité des catégories qui permettent à un maximum de profils de jouer, en fait, tout simplement, parce que le speedrun reste évidemment du jeu. Avec le speedrun, le jeu devient un outil pour créer une œuvre qui va être le speedrun. Et c'est ça aussi qui est, je trouve, assez intéressant dans la réappropriation d'une œuvre pour créer une œuvre qui fait déjà sens, pour créer une autre œuvre qui fait sens, elle aussi.
Alors si on fait un point, on a dit que les enjeux du speedrun, c'était de prolonger la vie de ton jeu vidéo préféré, du coup le plaisir finalement du jeu, la connaissance comme bien commun, du coup les savoir-faire autour du jeu vidéo, je dirais. Moi j'ai rajouté les records personnels et mondiaux, et l'apprentissage de savoir qui revient un petit peu sur la connaissance comme bien commun. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des records personnels mondiaux.
Avant de penser au record mondial ou même national, il faut déjà penser à son record personnel, voir un peu quelles sont ses capacités de speedrun, et puis enfin, il n'y a pas de honte à dire que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, parce que tout le monde n'a pas le même temps à investir dans la pratique, qui est quand même une pratique assez chronophage, il faut quand même le dire. Certains peuvent s'y investir plus que d'autres, et puis certains ont des capacités d'autres, mais que vous soyez premier sur un leaderboard ou 500e, enfin je veux dire, peu importe, ça reste du speedrun, et le plus important, c'est de prendre du plaisir à se fixer à des objectifs. Mais voilà, c'est juste pour préciser ça par rapport au record. Et puis, juste, je termine, pardon.
Je t'en prie.
Par rapport à l'apprentissage, c'est vrai que moi, quand j'ai fait des entretiens, donc j'ai fait des entretiens avec des speedrunners dans le cadre de ma thèse, et c'est vrai que le fait, alors je vais pas citer le jeu parce que je préfère garantir l'anonymat des personnes avec qui je me suis entretenu, mais c'est vrai que ce plaisir-là de redécouvrir un jeu, d'avoir l'impression de jouer en fait à un autre jeu. Et comme la communauté est très active, que ce sentiment-là est renouvelé assez régulièrement, c'était une source effectivement de satisfaction et de motivation pour justement speedrunner. Mais ce qui est vrai en tant que speedrunner, mais ce qui est vrai aussi en tant que spectateur de speedrun, parce qu'on va engranger aussi des connaissances sur un jeu qu'on n'aurait peut-être pas eu dans le contexte de sa propre expérience. Moi, j'ai pas du tout, par exemple, le temps de me consacrer à du speedrun, mais j'en regarde énormément, justement parce que je sais qu'en regardant du speedrun, je vais apprendre des choses sur des jeux que j'aime énormément.
Ok, merci. Moi, j'avais une question du coup pour Ninist, pour rebondir là-dessus aussi un petit peu. Toi, depuis combien de temps tu fais du speedrun et combien de temps ça t'a pris avant d'avoir tes premiers records personnels et d'être satisfaite en tout cas de ta pratique du speedrun?
Alors j'ai commencé le speedrun en 2014, donc ça fait 10 ans que je suis dessus. Bah ton premier record personnel, c'est à partir du moment où tu finis ta première run. Par définition, hein, ton premier record personnel. Disons que moi, je suis pas satisfaite de mes temps parce qu'à chaque fois que je bats mon record, donc mon PB, je me rends compte que je suis capable de faire mieux. Donc j'essaye toujours de faire mieux et c'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis speedrunneuse. Parce que je me satisfais pas et... Enfin si, je me satisfais, mais j'ai toujours envie de plus. Et aussi parce que ben, tu te rends compte que « Ah, si t'avais joué un peu mieux à cet endroit-là, t'as 5 secondes à gagner. » Tu te rends compte aussi que si t'arrives à t'améliorer à un certain endroit, et ben, oh, tu rentres centième dans le classement. Donc c'est intéressant, c'est un petit objectif supplémentaire. Tu peux aussi avoir un rival qui va te donner envie de le dépasser, et puis lui va te redépasser, et ainsi de suite, vous allez vous dépasser, et c'est ça qui pousse à vouloir s'améliorer de plus en plus. Tu vas aussi avoir le côté divertissement, mais ça, je pense que c'est propre à ceux qui sont streamers. Le fait que battre un record, c'est absolument génial. C'est tout le monde jubile à l'idée de battre son record. Tout le monde aime ça. C'est comme faire une représentation dans c'est un spectacle, c'est un show en fait. Et du coup, les gens, c'est une hola à chaque fois que tu bats ton record. C'est génial et ça te donne envie de le refaire encore et encore pour faire kiffer les gens. Donc c'est vrai que c'est de mon côté quelque chose qui ne s'arrêtera pas, en tout cas pas maintenant. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup beaucoup de speedrunners. Il y a beaucoup de speedrunners qui vont faire des pauses, puis qui vont recommencer, etc. Qui vont refaire des petites pauses et recommencer quelques semaines, quelques mois, quelques années après. On finit souvent par y retourner, hein, ou même en étant un petit peu nostalgique des années après, revoir un petit peu ce qu'on est capable de faire avec les nouveaux glitches qui ont été trouvés ou avec éventuellement un changement de manette aussi. Hein, changer de manette peut te permettre d'être beaucoup beaucoup plus efficace. Et quand tu vois en fait les progrès qui sont possibles. Et les progrès sont tout le temps là, t'es jamais satisfait. J'aime beaucoup comparer le speedrun avec un sportif, par exemple. Jamais on va dire à un sportif qui se chronomètre en course à pied ou en natation, « Oh là là, t'es courageux de faire de la natation tout le temps dans de l'eau !» Oui, oui.
En même temps, dans autre chose, ça serait compliqué.
Voilà, c'est ça. C'est toujours les mêmes longueurs de piscine, hein. C'est toujours des piscines qui ont la même forme, qui ont la même taille. Et pourtant, jamais on va lui dire, oh là là, qu'est-ce que t'es courageux. Donc non, c'est juste une question. Il faut voir, je pense, ça d'un œil un petit peu plus sportif et de se dire que, au final, tu fais jamais la même chose. Parce que tu vas faire le même jeu, mais tu vas changer de catégorie. Tu vas avoir des runs qui vont être merveilleuses parce que tu vas jouer comme une reine. Et tu vas avoir le lendemain des runs où tu vas être très mauvaise. Tu vas avoir des moments où il va falloir se relever, s'améliorer, apprendre de nouvelles techniques. C'est jamais la même chose au final. Le fond est différent. La forme est peut-être la même. C'est Mario 64 pour moi ou c'est Elden Ring pour d'autres. Au final, dans le détail, c'est très 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 différent. On est humain, donc forcément, en tant que non-robot, on ne fait jamais la même chose et on n'est jamais parfait. Le but étant d'essayer de s'approcher de cette perfection quand on en a envie, en tout cas, de s'améliorer, en tout cas.
Je voulais qu'on aborde un petit peu le thème des espaces du speedrun, où oui. se regroupent les pratiquants de speedrun. Et j'ai découpé en deux temps les moments de regroupement et les espaces d'échange autour du speedrun. Évidemment, si vous en avez d'autres, on pourra en rajouter. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur, du coup, les moments de regroupement? Sacha, ça, c'est plus ta spécialité, je pense. Notamment, le plus connu, évidemment, en France, c'est Speedon.
Alors, il y en a d'autres, évidemment. Il y a Interglitch, qui est organisé par le French Restream. Il y a Fast and Fabulous aussi. Alors, c'est peut-être pour l'instant pas en présentiel, c'est en distanciel, mais ça reste un moment social important. Quand j'ai fait les entretiens avec des speedrunners, donc c'était dans le contexte de la deuxième édition de Speedon, et en fait on leur a posé la question, donc parce que je dis on parce que ces entretiens je les ai fait avec ma copromotrice Fanny Barnabé, et on a posé la question aux speedrunners, on leur a dit mais en fait pourquoi vous allez dans ces événements là, qu'est-ce que ça vous apporte, et les entretiens ont montré que il y a quand même un enjeu social important à participer à ces événements pour les speedrunners, parce que c'est quand même une pratique qui se passe beaucoup par écran interposé, même si les outils Twitch, Discord, etc. permettent la discussion et d'avoir un rapport social, ça reste par écran interposé, et c'est important de se voir en fait physiquement, de mettre un visage, une voix, un corps sur des pseudos, etc. Je dirais que c'est aussi un moyen de rencontrer les gens, de rendre concret l'investissement qu'on met dans la pratique, parce que du coup, ça nous permet d'être un peu reconnus. Ça permet aussi, pour la construction de l'estime de soi en tant que speedrunner, c'est important de se dire que on est reconnu par d'autres, que les autres nous suivent et nous le font savoir. Le fait qu'on a été sélectionné pour participer à ces marathons aussi, c'est important de se dire que on nous fait confiance. Voilà, je sens que je vais être utile pour une cause qui, elle, est utile, etc. Oui, bah voilà, du coup, c'est en fait gratifiant de participer à ça. De plus, que c'est pas forcément un investissement qu'une sphère privée, peut-être plus proche, pourrait comprendre. Parfois, c'est un peu difficile, que ce soit les collègues de travail ou les amis un peu proches ou la famille, de comprendre un peu la pratique. Ils vont être assez parfois détachés. Et c'est vrai que le fait de se retrouver entre gens qui vivent la pratique au quotidien, enfin qui comprennent un peu l'investissement qu'on peut y mettre, évidemment, c'est toujours plus agréable. Donc, je dirais qu'il y a un enjeu social à participer à ces événements, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et puis voilà, qui joue sur aussi l'estime de soi qu'on peut avoir en tant que speedrunner, qui est importante aussi pour se dire qu'au moins ce qu'on fait sert à quelque chose.
Ninis, quelque chose à ajouter là-dessus, ou est-ce que ça te semble un peu complet? Est-ce que toi déjà tu participes à des regroupements?
Alors oui, si tu parles de Speedon, ça fait 3 ans d'affilée que j'y participe, mais par contre il y a quelque chose où je suis pas trop d'accord, si je peux utiliser cette façon de dire. Pour moi, les moments où la communauté, elle se regroupe, c'est pas Interglitch, c'est pas Speedon, etc., parce que c'est des moments qui sont anecdotiques, en fait. C'est une fois par an. C'est pas ce qui représente la communauté au quotidien, loin de là. Pour moi, la communauté au quotidien, c'est Twitch, en fait. Ça peut être parfois les réseaux Discord, par exemple, où tu vas avoir des Discord qui sont spécialisés par speedrun de jeu, mais les speedrunners au quotidien, c'est Twitch. C'est pas Speedon, c'est pas Interglitch, c'est pas les événements qui sont annuels, heureusement, parce que sinon ça serait sacrément triste. C'est sympa parce que oui, on peut se retrouver IRL, on peut se rencontrer en vrai pendant ces événements, mais rien n'empêche les speedrunners de se rencontrer en dehors de ces événements-là, via Twitch, justement. Au quotidien, c'est Twitch. Tous les jours, tu sais que ta communauté, tes amis, au final, parce que ça peut être appelé aussi des amis, en fonction des liens que tu as tissés avec, tout ça, c'est sur Twitch. C'est vraiment l'endroit de regroupement par excellence. Ça ne peut pas être un événement annuel qui est représentatif de la communauté. Même si, évidemment, c'est des événements qui sont très très importants et très intéressants. C'est pas un événement annuel qui rassemble à tout péter 500 individus qui va représenter la communauté, je pense.
Non, bien sûr, le rapport social ne peut pas se construire uniquement à travers ces événements, mais effectivement, ces événements-là ont quand même une importance, en tout cas dans les entretiens que nous on a fait, pour expliquer, justement justifier le fait de participer à ces événements, le fait de voir les autres en vrai, parce que on avait le cas, alors pareil, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais c'était une race en fait entre des speedrunners, et c'était des gens qui se voyaient jamais, c'était que des rapports qu'ils avaient par Discord. Et c'est vrai que là, le fait de se voir en vrai, de passer une journée, un week-end à Paris, c'était aussi une vraie source de motivation pour eux de venir, etc. Donc effectivement, on peut pas construire son rapport social uniquement par les événements, parce qu'effectivement il y en a trop peu dans l'année pour que ce soit quelque chose de viable, mais ça reste un élément qui compte quand même dans la vie sociale.
Oui, c'est ça, il compte. Il est pas représentatif du quotidien, mais il compte, clairement.
Mais ça doit pas être simple de rencontrer des nouvelles personnes sur Discord, sur Twitch, pardon, et d'aller à leur rencontre et de proposer de travailler avec eux, de faire des choses ensemble. Enfin, je veux dire, les événements, ça permet aussi d'aller directement vers la personne en face à face, c'est quand même plus simple.
Disons que quand tu es speedrunner, moi je parle vraiment du speedrunner, il y a rien de plus simple que de justement parler à quelqu'un sur internet. C'est on est des geeks, hein. C'est vachement plus simple de parler à quelqu'un sur internet via un stream, par message, plutôt que d'aller voir la personne en face à face en disant bonjour, veux-tu être mon ami? Nous avons la même passion. C'est bien plus facile par internet, justement.
Ok, bon, moi je me disais ça plutôt à l'inverse, mais si tu dis, si selon toi c'est plus simple d'aller sur de se parler en, c'est vrai qu'on est des geeks et qu'on a tous un peu peur de se confronter en vrai.
Les événements IRL, on se connaît pas. Ça peut être un petit peu effrayant que de faire la démarche de se voir en disant oui bonjour, je cherche des amis, est-ce que toi tu veux bien être mon copain, enfin c'est pas naturel, c'est bizarre, alors que sur internet c'est pas bizarre de dire bonjour, veux-tu être mon copain au final.
Et t'as l'occasion de le découvrir à travers son stream aussi, de découvrir la personne.
Que ce soit des streamers ou juste des viewers, tu sais, la communauté c'est 10% de streamers et tout le reste c'est des viewers. Les gens vont discuter avec eux, vont discuter entre eux sur le stream d'un speedrunner. Ils vont se retrouver chez un streamer qui joue à un jeu, puis ils vont peut-être se retrouver chez un autre streamer qui joue à un autre jeu. Et oh, c'est fou, je t'ai déjà vu sur le stream de machin. Et la discussion se fait toute seule et ensuite ça devient des copains.
Bah, par la pratique quotidienne, bah, par le stream, par Twitch, par les réseaux sociaux. En fait, au niveau du, ce que tu décris, Niniste, sur le fait que on est des geeks, on a plus de facilité à se parler par Internet, c'est quelque chose aussi qui est, je dirais, à mon sens, un peu spécifique au domaine du jeu vidéo. Il y a toujours un débat dans les expos de jeux vidéo, dans les festivals rétro, les machins comme ça. Il y a toujours un moment dans les discussions, quelqu'un qui dit « Mais est-ce que le jeu vidéo, c'était pas mieux avant ?» Mais tu vois, tu prends un exemple très simple, c'est que dans les années... j'ai commencé le jeu vidéo au milieu des années 80... je découvre un jeu, le jeu me plaît. Bon, bah, j'ai pas forcément des gens à qui parler autour de moi parce que on n'avait pas forcément tous les mêmes jeux. Et même en se les prêtant, on n'a pas le même intérêt. Là, aujourd'hui, tu vois sur les réseaux sociaux que quelqu'un a sorti un jeu, tu peux le tester, tu peux lui envoyer un message sur Blue Sky, sur Mastodon, sur Twitter, sur ce que tu veux. Et il y a la possibilité de créer une discussion directe. Alors que IRL, si on avait vraiment que la possibilité de se rencontrer en vrai, ça serait compliqué. Donc, en effet, il n'y a pas de souci quant au fait que la possibilité d'échanger, la possibilité de partager. Parce que ce que Sacha disait au début, c'est que c'est quand même, le speedrun est une pratique qui est quand même fortement communautaire. Et oui, pour que cette communauté existe, eh bien, il faut que le marketplace, enfin la place du village où l'événement a lieu, soit ouverte et facilement accessible. Et de ce côté-là, Twitch et dès Justin TV, pour ceux qui auraient connu cette époque-là, parce que ça commence déjà à remonter, c'était assez formidable de pouvoir se dire, voilà, quelqu'un joue, on discute, on échange, parce que précédemment, des parties qu'on pouvait voir, il y avait la partie jeu à la fin des épisodes de Micro Kids, pour ceux qui ont connu l'émission Micro Kids, il y avait The Wizard, et c'était très intéressant que tu le cites, Sacha. The Wizard, qui a été en fait un film qui a été fait pour être juste une très grosse pub pour Super Mario 3, finalement, à peu de choses près. On a un lieu, et en fait, ce lieu est délocalisé. Voilà, cette place du jeu est assez importante. Et je voudrais juste rajouter une dernière chose, c'est que ces événements, ils ont évidemment un intérêt pour la communauté des speedrunners, des amateurs de speedrun, hein, parce que je préfère préciser une fois encore, moi je ne suis pas speedrunner, je suis juste amateur éclairé. on va dire, c'est que j'habite pas loin de Lyon, et quand il y a eu le Speedon à Lyon récemment, moi ça a été l'occasion d'en discuter dans mon boulot, dans ma vie de tous les jours, et en fait on s'aperçoit que comme on a quand même une forte partie de gens, une forte majorité de gens qui jouent d'une manière ou d'une autre, finalement, quand tu présentes le concept du speedrun, tu t'aperçois que ça intéresse vraiment les gens.
Donc on a parlé des moments de regroupement du speedrun, les enjeux sociaux de se retrouver, de Twitch comme lieu de regroupement du quotidien. On n'a pas trop parlé des espaces d'échange du speedrun, on a parlé un peu de Discord, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de speedrun.com, que je ne connais pas, et peut-être de ses ancêtres ou pas.
Speedrun.com, moi je pense que ce n'est pas un lieu de regroupement. C'est un site sur lequel tu vas avoir des informations. C'est un site sur lequel tu vas avoir des petites vidéos qui vont te servir d'aide. C'est une base de données, c'est un support, c'est un endroit où tu vas pouvoir mettre évidemment tes records quand tu en as pour savoir où tu te classes, etc., te comparer aux autres. Mais ce n'est pas un endroit d'échange direct. Tu vas pas discuter avec les gens. Il me semble que sur speedrun.com, tu vas avoir une sorte de forum. Mais disons que le site n'existe pas pour ça. Pour ça, tu vas vraiment avoir les Discord.
Oui, speedrun.com, c'est plus un tremplin vers d'autres espaces de discussion. C'est vraiment quand on tape dans Google speedrun et le nom d'un jeu, on va avoir le lien speedrun.com qui va s'ouvrir. Et après, à partir de là, on va avoir un lien vers le Discord, un lien vers des sites web, etc. C'est vraiment plus un tremplin vers d'autres espaces de communication que vraiment en soi un espace de communication.
Alors, il y a les guides hein, quand même. En fait, pour pas mal de jeux, il y a la possibilité en fait de mettre des guides. Donc, alors, même si c'est pas à proprement parler une source de discussion dans la mesure où quelqu'un met son guide, c'est quand même une source d'information.
C'est un espace de ressources, tout à fait, mais voilà. qui peut pas être le seul espace si on veut se mettre sérieusement à speedrunner un jeu. Les ressources sur speedrun.com ne sont je pense pas suffisantes. Il faut aller de toute façon sur le Discord et c'est là où les gens postent en fait la majeure partie des ressources.
Tu vas avoir des ressources, mais tu vas également avoir les vidéos des records du monde qui vont te permettre de te faire une petite idée de la route que tu peux essayer de suivre. Après, bien sûr, la route d'un record du monde n'est pas forcément faisable pour un débutant. Ça dépend vraiment du jeu vidéo, mais ça te donne une petite idée. Tu vas ensuite la faire un petit peu à ta sauce, tu vas te l'approprier. Mais ça peut te donner une idée de routing. Et c'est pas mal du tout pour ça.
En partant du principe qu'une vidéo de speedrun est déjà une ressource en soi. Après, il faut savoir la lire, la décoder, etc.
Quelles sont les catégories aussi, les catégories qui sont officielles.
Ministre, tu parlais de routing, tu pourrais expliquer.
Alors le routing, c'est le chemin à suivre pour finir un speedrun. Donc tu peux avoir le routing le plus optimisé, donc la route tout simplement la plus optimisée pour finir ton speedrun. Et sinon, tu vas avoir des routes qui sont dites débutantes, des routes qui sont faites par toi, pour toi. Le routing, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans le routing, qui donc se sont spécialisés dans le fait de trouver le meilleur chemin, le chemin le plus rapide pour finir le jeu. Tout comme il y a des gens qui se spécialisent dans la recherche de glitch. Il y a des gens qui se spécialisent dans la recherche dans le routing. Voilà, tout simplement.
Il y a une espèce de division du travail qui souligne vraiment le caractère collaboratif de la pratique. Et puis parfois, il y a des glitches qui sont découverts par hasard. Donc c'est assez intéressant de voir des gens découvrir ça par hasard et dire oh, « Moi, j'ai découvert ça dans ce jeu, on peut faire ça. » Et tous les speedrunners qui font « Quoi ?» Mettons ça, allons tester ça tout de suite.
D'ailleurs, on n'a pas trop défini ce qu'était un glitch. Comment vous le définiriez ?
Un glitch, c'est user d'une faille du jeu, souvent à son avantage, et parfois pas du tout. Ça dépend si c'est volontaire ou pas. Ça dépend si c'est quelque chose que tu as cherché à faire dans le but d'aller plus vite ou juste dans le but de t'amuser parce que c'est rigolo de faire bugger un jeu.
Ouais, j'aurais pas dit mieux. C'est assez difficile là comme ça de définir un glitch parce que ça peut vraiment être l'objet d'une émission entière. Ouais, moi j'aurais peut-être tendance un peu à dire que glitch et bug sont pas forcément synonymes. Ça représente pas tout à fait la même chose. Un bug, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nuire à ton expérience de jeu. Parce que tu vas te retrouver bloqué dans un endroit, parce que la porte s'ouvre pas, parce que le PNJ a pas drop. Mais le glitch peut avoir un potentiel ludique que le bug n'a pas forcément.
Question suivante. Question qui va être surtout pour, premièrement pour Ninist, ensuite pour les autres. Pourquoi choisir de faire du speedrun?
Bah, c'est surtout, je pense, la première chose, comme je disais tout à l'heure, le plaisir de prolonger la vie de son jeu. Tu aimes un jeu, tu as envie de continuer, mais tu ne peux pas de la façon classique. Après, ça va être forcément, quand tu rentres dans cette communauté, ça peut être simplement l'entrain, l'envie de continuer d'être dans cette communauté, l'envie de performer, l'envie de découvrir une d'autre façon aussi. Par exemple, je prends l'exemple de Mario Odyssey, qui est un jeu que je n'ai pas aimé en joueuse classique. Et quand j'ai découvert le speedrun de ce jeu, je l'ai enfin apprécié. Donc, ça peut te permettre aussi de donner une seconde chance à certains jeux. Et c'est plutôt intéressant de redécouvrir certains jeux.
Tu nous parlais aussi du challenge, le fait de se remettre constamment en question et d'aller toujours plus loin vers le meilleur temps, le meilleur challenge, la meilleure expérience de jeu finalement.
Ouais, c'est ça, c'est la compétition avec soi-même avant la compétition avec les autres. C'est comme du sport, sauf que t'as pas le bénéfice d'avoir une bonne santé.
Ninist fait bien de préciser qu'il y a d'autres choses que juste simplement bien aimer le jeu, parce que on a tous des jeux qu'on apprécie mais vraiment énormément, mais on n'a pas tous franchi le pas d'être des speedrunners. Il y a quand même des choses en plus qui sont en
oui,
compte.
Bien sûr.
Le fait d'aimer la compétition quand elle est saine et pas quand elle est toxique, le fait d'aimer se challenger aussi, le fait d'aimer apprendre à jouer au jeu, puis à réapprendre à jouer au jeu, et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui varient après selon les individus, mais c'est vrai que c'est plutôt des choses qu'on trouve.
Tous les jeux ne sont pas speedrunnables pour une même personne, hein. Moi j'adore récemment la Zelda Tears of the Kingdom. Je compte pas, pour le moment en tout cas, et très certainement jamais, me mettre au speedrun de Zelda Tears of the Kingdom. C'est pas parce que t'aimes un jeu que forcément tu vas dire « Oh mon Dieu, est-ce qu'il est speedrunnable ? Est-ce que je peux faire des glitches ?» C'est pas compulsif. C'est vraiment certains jeux seulement. Jusque-là, ça va.
Est-ce qu'il y a des jeux qui sont absolument pas speedrunnables ?
Pour moi, tout est speedrunnable.
Oui, je suis assez d'accord. En théorie, tous les jeux sont speedrunnables à partir du moment... Et c'est pour ça qu'en fait, je parle dans ma définition de speedrun d'un objectif à atteindre. Parce qu'il y a des jeux, en fait, qui ont pas de fin, mais dans le sens... je prends un jeu comme les Sims, par exemple. Enfin, je veux dire, à partir de quand on peut dire qu'on a terminé les Sims ou quoi. Mais il y a plein de speedruns sur les Sims, ceux qui existent.
Ouais.
C'est pareil pour des jeux comme, Football Manager. Il y a des speedruns qui existent sur ce jeu. Enfin, en fait, on peut être... La seule limite qu'on a, c'est l'imagination des speedrunners. Et...
Le speedrun, c'est pas forcément finir le jeu. Ça peut être se donner un objectif et le faire le plus rapidement possible. Tu prends les Sims, par exemple, essayer d'avoir 100 bébés et de les faire aller jusqu'à l'âge adulte le plus rapidement possible, c'est un speedrun.
Je m'étais fait la réflexion, même pour un jeu auquel j'avais beaucoup joué quand j'étais un peu plus jeune, qui s'appelle Peggle. Ou Peggle, je sais pas comment ça se prononce.
Peggle Knight, oui, tout à fait.
Et il y a eu un speedrun, alors dans un événement récent, mais je dirais que c'était peut-être les Summer Games Done Quick 2023. Il y avait un speedrun de ce jeu et j'ai été émerveillé. Je me suis dit, mais dès que j'ai vu ce jeu sur la liste des jeux qui seraient présents à l'événement, je me suis dit, mais je réserve mon heure ou mon heure et demie pour voir ça. Et là, en fait, on voyait bien dans ce jeu que ce qui primait, c'était vraiment la précision des jets qui était phénoménale. Et c'est ça où je me trouve ça hyper intéressant dans un jeu où je me suis dit, mais en fait, le speedrun, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Ben, en fait, j'ai bien été, on m'a bien fait mentir et je pense qu'il y a un intérêt dans chaque speedrun, quel qu'il soit.
Ma prochaine question, elle tourne encore une fois autour enfin, ça fait un peu suite. À votre avis, quelles sont les qualités d'un bon speedrunner?
L'abnégation.
L'abnégation est un bon point.
La patience.
La passion.
Je pense que c'est une pratique où l'égoïsme n'a pas sa place. Donc, si vous êtes quelqu'un de très égoïste, c'est compliqué d'être speedrunner.
Bah, tu peux, mais disons que tu n'iras peut-être pas très très loin dans la discipline.
Ouais. Mais être généreux, je pense que c'est une qualité. Oui, généreuse, bien sûr, c'est être une qualité importante. Parce que, en fait, je pense que c'est beaucoup de qualités humaines plus que vraiment avoir une dextérité incroyable ou des réflexes de ninja. Mais je pense que c'est beaucoup de qualités humaines pour être speedrunner et speedrunneuse, parce que ça appelle voilà, le partage de connaissances, le fait de se dire que le record qu'on a établi, on va se faire éclater très certainement dans les prochaines années ou les prochains mois.
Voir les
prochaines heures, quand c'est vraiment très compétitif entre les joueurs. Oui, je pense qu'il y a des qualités. De toute façon, déjà, si vous en avez envie, c'est déjà une bonne qualité et un bon moyen d'entrer dans la pratique.
C'était pour le côté un peu poétique, cette question-là. Surtout que je pense que les speedrunners sont des joueurs particuliers qui ont une pratique très spécifique du jeu et qui comme tu l'as dit déjà, dans laquelle le partage est super important. C'est pour ça que je voulais poser cette question, parce que je voulais un peu faire le point sur les caractéristiques propres des speedrunners, speedrunneuses, et pourquoi est-ce que ça diffère des autres joueurs, entre guillemets, ou d'un joueur classique. Je pense que c'est vraiment cette notion de partage qui s'éloigne du coup de ce que tu viens de dire, de l'égoïsme du jeu, de la pratique du jeu pur.
Après, moi, dans mon expérience personnelle, qui est celle uniquement d'un spectateur, donc je regarde des streams, etc., c'est vrai que j'ai quand même plus de sympathie, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'aime bien dans les streams quand les speedrunners ne sont pas avares d'explications, voilà, ou de pédagogie, ou n'hésitent pas à répéter parfois plusieurs fois des choses qu'ils ont déjà expliquées ultérieurement, ou qu'ils ont expliqué la veille, etc. Je trouve ça très agréable d'avoir affaire à des véritables experts du jeu qui apportent et qui transmettent un savoir sur le jeu qui, je sais, moi, m'enrichit intellectuellement, parce que c'est sur un jeu que j'aime beaucoup et je me dis, ah bah tiens, ça, je le savais pas, j'en ai
appris. Donc on ajoute la pédagogie.
Oui, oui, bah, c'est ce que j'allais dire pour ma part. Alors, il y a la pédagogie, et puis il y a aussi la capacité, je dirais, du speedrunner à te faire ressentir l'effort qu'il est en train de faire. Je trouve que ça a sa place, pour avoir pas mal suivi la course pour le record du monde pour Super Mario Bros. Parmi les personnes qui se tirent à la bourre, en fait, il y a des runs, quand tu les regardes, il y a vraiment des gens qui sont totalement dans leur run et qui sont pratiquement des humains qui font des tasses, voilà, des robots humains. Et puis il y en a d'autres qui, alors ça peut être à voir avec une qualité qui est importante chez les catcheurs et les catcheuses, qui s'appelle le selling, c'est-à-dire capacité à vendre ton effort ou un coup que tu as reçu. Mm-hmm. Et donc en fait, il y a des speedrunners qui sont des meilleurs sellers que d'autres. Et je trouve que c'est important de bien vendre ce que tu fais pendant que tu le fais.
La mise en scène, finalement, de la pratique.
C'est ça.
Il faut aussi rappeler que la capacité à prendre la parole est pas forcément la même pour tous les speedrunners. Il y a des speedrunners qui vont pas du tout parler pendant la performance parce que il y a pas forcément de questions. Mais c'est vrai que quand il y a une question qui est posée, je trouve qu'il y a toujours un effort qui est fait par les speedrunners pour essayer d'y répondre, même si c'est 5 minutes après ou 10 minutes après. Il y a quand même cet effort qui est très appréciable, que ce soit de la part de gens qui sont très extravertis, qui vont parler très naturellement pendant leur speedrun, ou même de personnes peut-être un peu plus introverties, mais qui après soulignent toujours à quel point c'était gratifiant d'avoir quelqu'un qui pose une question, parce que ça veut dire qu'il s'intéresse à la run, qu'il a envie de savoir, que du coup le speedrunner est identifié comme un expert qui peut lui permettre d'apporter des réponses, etc. Donc je trouve qu'il y a ce côté qui est très agréable quand on est viewer, en tout cas d'être en tout cas avec des runners qui n'hésitent pas à répondre à des questions, même si c'est pas forcément tout de suite dans la minute.
Moi, je pense que c'est agréable quand on est viewer d'avoir un speedrunner qui explique, mais pour moi, ça fait pas l'identité du speedrunner, hein. Il y a une très très grande majorité de speedrunners qui sont très très bons en tant que speedrunner, mais qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas être bons en tant que streamer. C'est pour moi vraiment pas la même chose. Moi, je trouve qu'on n'est pas dans la description d'un speedrunner de ce que j'entends.
Ok.
Je trouve.
On est sur quoi alors, sur un...
On parle de divertissement d'un viewer à un streamer. Ce qui, pour moi, n'est pas la même chose qu'un speedrunner pur et dur. Le speedrunner, s'il n'a pas envie de répondre au chat, le speedrunner, s'il n'a pas envie de mettre de micro, s'il n'a pas envie de mettre de caméra, s'il n'a pas envie de faire le divertissement, ça reste un speedrunner. Et c'est potentiellement quelqu'un qui va être là pour juste pour le fun d'avoir un temps, ou même qui est là pour un record du monde. C'est juste qu'il n'est pas streamer, il n'est pas pédagogue, il n'est pas là pour le divertissement, il est là juste pour son temps et pour la compétition. Et c'est peut-être moins bien pour le le viewer, mais ça n'empêche pas que c'est un speedrunner quand même. Et peut-être un bon speedrunner en plus.
Donc pour toi, le speedrun, c'est vraiment cette activité qui consiste à battre des records et à aller au-delà.
Pas que. Non, bien sûr, pas que. Il y a des la personne à partir du moment où elle fait une première run, elle est speedrunner. Mais c'est pas parce que t'es pas pédagogue pendant ton live, pendant ta run, et que tu réponds pas forcément parce que t'as pas le matériel ou parce que t'as pas envie, ça ne doit pas faire de toi un moins bon speedrunner. Ça fait de toi un mauvais streamer peut-être, mais pas forcément un mauvais speedrunner. C'est deux choses bien distinctes. Il y a des gens qui font le speedrun pour eux avant de le faire pour les autres, et on peut pas leur jeter la pierre pour ça.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour, et c'est bien que Ninis nous ait reconcentré sur vraiment le speedrun et pas sur.
L'intérêt de la discussion, c'est d'avoir parfois des avis qui sont un petit peu divergents.
Non, mais je trouve en plus très intéressant la distinction streamer speedrunner, parce que les speedrunners évoluent dans un écosystème de streamer, donc c'est vrai que c'est en termes de positionnement, ça doit être un questionnement que les speedrunners doivent avoir quand ils sont sur la plateforme Twitch. Donc non, je trouve ça au contraire très intéressant et qui permet de nourrir aussi la réflexion, ma réflexion personnelle en tout cas.
Du coup, ça nous permet d'aller vers la troisième question qui est plus pragmatique. Comment faire du speedrun ?
Pour rebondir sur les outils qu'il faut pour speedrunner un jeu sur une console qui fonctionne. Et puis, ça me semble déjà pas mal. Parce qu'après, il y a la démarche. Est-ce qu'on veut diffuser sa performance ou pas ? Est-ce qu'on veut le faire que pour soi ? Si on veut le faire que pour soi, une console et un jeu qu'on a très envie de faire, ça suffit. Après, si on veut être sur Twitch, là, il va falloir peut-être avoir d'autres outils. Mais globalement, ça reste une pratique, je trouve, en tout cas dans la manière dont c'est... qui est quand même assez accessible. Il suffit d'avoir une connexion internet, peut-être des outils pour streamer, mais c'est même pas obligatoire réellement. Tout dépend après du degré d'investissement qu'on veut y mettre en fait. C'est quand même assez accessible. Même moi, demain, je veux dire, j'ai OBS sur mon ordinateur, c'est gratuit. Ouvrir un compte Twitch, c'est gratuit. Il suffit juste d'acheter le jeu et puis d'avoir peut-être un ordinateur un peu, peut-être moyen de gamme, même pas avoir quelque chose de luxe. C'est déjà un bon début, mais après, oui, si on veut s'investir sur le long terme et construire une carrière de speedrunner avec le streaming, par exemple, il va peut-être falloir d'autres choses, mais déjà, ces outils-là, si vous avez déjà une console et un jeu, c'est déjà un bon début.
On peut commencer à s'entraîner.
Voilà, c'est ça, exactement. Et après, si vous voulez diffuser votre performance, c'est déjà autre chose, c'est une autre démarche, mais qui est pas non plus extrêmement, à mon goût, enfin à mon sens,
aujourd'hui en tout cas.
Si compliqué que ça aujourd'hui, oui. Il y a peut-être 15 ans en arrière, là c'était vraiment compliqué, mais aujourd'hui, enfin comme je disais, avec les machines comme PlayStation, Xbox, Switch, enfin enregistrer sa performance, la capturer en tout cas et la diffuser, c'est quand même assez assez accessible.
Est-ce que, Ministre, tu peux nous décrire, toi, ton setup de ouais. Speedrun ?
Est-ce que tu es sûr d'avoir envie d'entendre cette réponse ?
Bah, pourquoi pas ?
Alors, mon setup, j'ai un PC portable avec un écran cassé, il y a tous les câbles qui dépassent, l'écran, il est un petit peu penché, d'ailleurs, donc si je veux vous voir droit, je suis obligée de faire comme ça. Quoi d'autre ? Pour jouer, moi, je joue sur émulateur, donc j'émule des jeux qui sont du rétro, donc mon PC portable tient le coup, mais vachement moins depuis que l'un des ventilateurs du PC est cassé. Donc voilà, pour enregistrer mes runs, je fais tout sur Streamlabs, puisque je suis la seule streameuse au monde qui n'utilise pas OBS, parce que j'utilise Streamlabs depuis 10 ans et que je suis pas foutue d'apprendre à me servir d'autre chose. Et voilà, je crois que c'est bien.
T'as une caméra aussi, évidemment.
Oui, pour streamer. J'ai une caméra, bien sûr, pour streamer, hein, qui du coup n'a aucun rapport avec le speedrun. Caméra qui est un appareil photo que j'ai depuis à peu près 5 ans et que j'ai réutilisé pour le stream, et qui tient sur un pot à créer rayon vide, puis sur une pile de boîtes vides pour avoir la bonne hauteur.
Ça, c'est un beau setup. Ça, c'est voilà. Un setup comme on les aime.
Ça sert à rien de dépenser une fortune pour se lancer dans le stream.
Mais si on veut te faire des cadeaux, on sait quoi faire maintenant.
Une belle illustration, en tout cas, que il y a pas besoin non plus d'avoir des choses de fou furieux pour speedrunner.
Question suivante, du coup, je pense qu'on a fait le tour du matériel et du super matériel de Ninis surtout. On t'offrira des boîtes à crayons pleines pour la prochaine fois qu'on se rencontre. Quels sont, selon vous, les jeux emblématiques du speedrun ? Vaste question aussi.
Alors, si tu vas sur speedrun.com, tu peux regarder quels sont les jeux les plus speedrunnés. Et je crois que le jeu le plus speedrunné de tous les temps, toutes catégories confondues, toutes plateformes confondues, c'est... Comment il s'appelle ce jeu ? C'est un jeu de téléphone où tu as un petit personnage qui court et qui doit aller sur des...
Subway Surfer.
C'est Subway Surfer, le jeu le plus speedrunné de tous les temps. Bon, après, dans la communauté, il est pas non plus très parlant, mais bon, il est là, il existe.
28 680 joueurs.
Bah, son statut de gratuit.
Ouais, c'est ça. Donné, Et après, les autres jeux les plus speedrunnés, dans l'ordre, si je dis pas de bêtises, tu vas avoir Super Mario 64, et tu vas avoir Minecraft, par exemple.
Minecraft est en deuxième position et Super Mario 64 en cinquième position, juste derrière Céleste.
Ah oui, Céleste, c'est ça. Céleste qui a la particularité de donner des... tu as des mouvements qui sont pas du tout indispensables pour terminer le jeu, mais qui peuvent permettre aux gens qui ont envie de le speedrunner de se faire plaisir. Et en plus de ça, tu as un compteur de mort directement dans le jeu et un chronomètre. Donc le jeu se prête au speedrun directement à sa création.
Le premier jeu avec le plus grand nombre de drones, c'est un jeu qui s'appelle Cetera.
Ouais, mais pareil, c'est un jeu... Alors là, je crois qu'il y a un jeu, c'est sur un navigateur web, où on doit deviner les pays ou la position des pays sur des maps, etc. Un espèce de géoguesseur, un peu.
C'est ça. Ouais.
Mais son statut de gratuité, et puis surtout de gratuité, fait qu'il y a un nombre de joueurs absolument colossaux dessus. Mais moi, comme speedrun emblématique, j'ai quand même envie de dire, parce que j'ai un peu la fibre un peu historique du speedrun, j'irais Metroid sur NES.
Oui, les Metroid, bien sûr.
En 87, parce que c'est aussi un jeu qui a instauré la vitesse comme élément de rejouabilité, étant donné que le jeu dévoilait des cinématiques de fin selon le temps de complétion.
Exactement.
Donc, voilà, je dirais peut-être Metroid aussi. Et puis parce que c'est un jeu qui est très populaire aussi chez les speedrunners.
Ce qui est intéressant pour la saga Metroid en général, c'est que les premiers ne sont pas forcément pensés pour le speedrun, mais sont devenus des jeux vraiment emblématiques du speedrun. Pour le premier Metroid, parce que justement, il y a le timer à la fin qui vous permet de découvrir l'identité de Samus. Si vous définissez le jeu suffisamment rapidement. Et en fait, le Metroid... alors moi, là, pour le coup, moi, j'ai consacré beaucoup de... Pas de ma pratique, mais de en tant que viewer des speedruns. J'ai vraiment regardé tout ce qui se faisait sur Super Metroid. Voilà, Super Metroid, c'est la découverte ou l'utilisation... En fait, je sais même pas si les gens savaient qu'il y avait un wall jump dans Super Metroid avant... que les speedrunners découvrent qu'il y avait un wall jump dans Super Metroid. Et puis, surtout, je pense que c'est un jeu qui permet de mettre en place, pour les gens qui découvrent le speedrun, toute la grammaire sur qu'est-ce qu'on utilise quand on fait un speedrun, avec des concepts comme le sequence break, c'est-à-dire que il y a un passage entier du jeu que vous arrivez à skipper et à passer directement au-delà. Et voilà, dans Super Metroid, il y a eu, au fur et à mesure de l'avancement du niveau de maîtrise du jeu, de plus en plus de séquences break, et on a vu des choses de plus en plus incroyables. Et ça a été très intéressant. Et là où c'est intéressant pour la saga Metroid en général, c'est que maintenant, les Metroid sont pensés avec la possibilité de pouvoir les speedrunner. Et on voit que dès Metroid Fusion, et encore plus marqué dans Metroid Zero Mission, en fait, il y a carrément des choses où, en mettant Samus en boule dedans, vous êtes éjecté pour aller extrêmement vite, sauf que ces trucs-là sont planqués dans des murs. Et ça implique de bien connaître le jeu pour pouvoir faire ça. Et donc maintenant, oui, Nintendo a compris que la communauté attendait que ces Metroid servent comme plateforme de speedrun.
Peut-être question suivante, on est toujours dans les choses un peu emblématiques du speedrun. À votre avis, qui sont les figures du speedrun ? Est-ce qu'on peut parler de figure du speedrun ? Est-ce que ces personnes se sont vues comme des entre guillemets, enfin c'est un grand mot, mais il y a des stars, mais c'est un grand mot peut-être.
Je pense que chaque communauté a ses joueurs un peu un peu phare, mais alors moi, là, c'est à titre personnel, bien sûr, plutôt que de parler de speedrunner, de certaines communautés, parce qu'évidemment, moi, je vais pas suivre toutes les communautés, je m'intéresse plutôt aux communautés des jeux que j'aime bien, mais pour citer des figures emblématiques, moi, j'en ai quatre en tête quand même. Ben, c'est Cœur de Vandale et Real Myop pour 88 miles à l'heure et Speed Game, et Mister MV. Je pense qu'à eux trois, ils ont permis que la francophonie ait une culture du speedrun extrêmement riche et forte. Il faut quand même mesurer que Cœur de Vandale et Real Myop, c'est de 2008, si on prend ce 88 miles à l'heure, à 2016 pour Speed Game. Donc c'est quand même 8 ans de contenu régulier sur une plateforme importante qui était, qui est toujours jeuxvideo.com. Donc je pense que la pratique a énormément bénéficié de 88 miles à l'heure et de Speed Game. Et je pense que Mister MV, dans son travail au début des années 2010, quand il a proposé la diffusion francophone des marathons aux États-Unis, quand il a organisé des événements, quand il a fait lui-même du speedrun, et tout le narratif du speedrun qu'il met dans ses streams encore aujourd'hui, font que, je pense, à eux trois, ont permis que la francophonie ait un vivier de speedrunners et de speedrunneuses aujourd'hui qui est vraiment exceptionnel. Je trouve qu'on a beaucoup de chance, et on peut le mesurer avec Speedon. Enfin, je veux dire, le fait que Speedon ait pu soulever plus de 2 millions d'euros dans un événement caritatif de speedrun, c'est exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Et une quatrième personne, alors cette fois qui n'est pas française, mais qui s'appelle Narcissa Wright, qui est une speedrunneuse américaine qui a été une grande experte de Zelda Ocarina of Time. Et je pense que son influence a dépassé le cadre purement communautaire. Je pense qu'elle a eu une grande influence sur beaucoup de speedrunners et de speedrunneuses. Et notamment, c'est elle qui... parce qu'en fait, son record du monde qui a été battu depuis sur Ocarina of Time en un peu moins de 19 minutes avait été très largement médiatisé. Et je pense qu'elle a beaucoup influencé... En tout cas, c'est une hypothèse que je formule et que je vais essayer de creuser pour voir si elle est juste. Je pense qu'elle a beaucoup influencé l'utilisation de glitch complètement abusif dans les jeux, parce que vraiment finir Ocarina of Time en 18 minutes, il y a des glitches qui sont abusifs, et je pense qu'elle a permis que se démocratise cet aspect. Je pense qu'elle a aussi favorisé l'émergence de d'une alternative à Speed Demos Archive. Enfin, je pense qu'elle a eu une influence qui dépasse le simple cadre de sa communauté. Donc, je pense que pour moi, c'est les personnes les plus emblématiques, Cœur de Vandale, Real Myop et Mister MV, et Narcissa Wright, parce que son influence dépasse le cadre de son speedrun, et je pense qu'elle a fait beaucoup pour la pratique.
Nimis, toi, du coup, est-ce que t'as des streamers, des speedrunners qui t'ont inspiré, qui t'ont...
On est dans les speedruns qui nous ont marqué dans la question, ou on est sur...
Non, les figures emblématiques du speedrun pour toi, pas que françaises.
Pour moi, c'est clairement Cœur de Vandale et Real Myop, hein, parce que comme l'a dit Sacha, si on a une communauté francophone aussi forte en speedrun, c'est grâce à eux. Si on prend nos voisins allemands, nos voisins espagnols, etc., la communauté speedrun, elle est pas du tout aussi développée. C'est simple, le speedrun dans le monde, c'est les Américains et c'est les Français. Les Français, les francophones, bien sûr, c'est eux qui ont les communautés les plus démonstratives et les plus présentes. Donc c'est pour nous, c'est clairement grâce à Cœur de Vandale et Real Myop. Ils ont réussi à mettre en avant cette discipline au moment en fait où il fallait, et ça a pris des proportions assez énormes, et c'est génial.
Apparemment, il y a aussi les Japonais, mais ils font ça.
Ouais, les Japonais, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que les Français comptent énormément sur la scène du speedrun, parce que oui, je pense, et c'est revenu dans les entretiens énormément, Speed Game et Mister MV. Alors, Mister MV, pas parce qu'il participe à Speedon, mais vraiment quand il speedrunnait dans les années, enfin, au milieu des années 2010, quand il faisait du speedrun, il avait déjà une audience importante, il a diffusé les marathons anglophones en français, c'était vraiment les trois noms qui revenaient, et c'est moi, à titre personnel, grâce à eux, que j'ai aimé le speedrun. Donc,
Pipo, quelque chose à rajouter ou tu es d'accord avec
En fait, j'ai beaucoup vu de run de Brother Main sur Metroid. Okay.
Oui, qui a fermé l'édition de Speedrun 4 d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, il me semble, en marathon, mais qui est un excellent runner des Metroid.
En particulier de Metroid, oui, tout à fait, ouais.
Je pense qu'après, chaque communauté a un peu ses speedrunners phares. Mais c'est vrai que plutôt que de célébrer une communauté ou un speedrunner en particulier, je préfère mettre en avant, alors pour le coup, des gens qui sont pas speedrunners, c'est-à-dire Cœur de Vandal et Realme, parce que je pense qu'il faut rendre à César aussi ce qui est à César. Et ils ont beaucoup fait pour le speedrun francophone.
Et du coup, c'est drôle qu'ils soient pas speedrunners et qu'ils aient fait autant pour la communauté de speedrun.
Alors, pour Cœur de Vandal, en fait, il l'a déjà expliqué, hein. Il y a eu une période où il s'était lancé dans le record du monde de certaines courses de Super Mario Kart sur GameCube.
Oui, il faisait du contre-la-montre sur Double Dash. Et il explique même dans un speed game qu'il s'est fait une tendinite qui lui a empêché de devenir prof de philo.
Ah.
Il n'a pas pu passer son agrégation parce qu'il ne pouvait plus écrire à ce moment-là à cause de Mario Kart.
Les jeux vidéo.
Incroyable.
Quel speedrun vous a le plus marqué et pourquoi ? Là, je veux un peu des histoires de vie, je veux tout, la totale.
Sans aucune hésitation, c'est encore en lien avec Speed Game. En fait, quand moi, je découvre le speedrun, donc je regarde la première émission de Speed Game, c'était en 2011, c'était sur Super Mario Bros. Je trouve ça intéressant, mais je me dis pas quelle dinguerie cette pratique. Et en fait, le speedrun où vraiment je tombe dedans et je me dis, ok, le speedrun, ça déchire. C'est le tout la speedrun de Super Mario 64. Où là, vraiment, en fait, c'est un jeu que, je sais pas comment dire, j'avais l'impression de le connaître par cœur parce que je l'ai fait en long, en large et en travers quand j'étais jeune. Et en fait, quand j'ai vu le TAS, je me suis dit, mais en fait, je ne connais rien de ce jeu. Et j'ai été un peu émerveillé par ma propre ignorance. De voir ça, et pour moi, je pense que c'est le speedrun le plus emblématique. C'est peut-être un des speedruns du siècle, ce serait peut-être un peu exagéré, mais c'est pour moi un speedrun qui a énormément compté dans mon parcours de découverte et de la pratique et d'appréciation de la pratique. C'est donc le Tool Assisted Speedrun de Super Mario 64 qui a été diffusé dans Speed Game en 2012 et qui a été publié en 2012 et qui est encore aujourd'hui le TAS officiel répertorié sur tasvideo.org.
C'est beau. Ça, c'est une belle anecdote. Ministre, à toi, je t'en prie.
J'ai réfléchi à cette question et je pense que le speedrun qui m'a le plus marqué, c'est le 100% de Mario 64 à l'aveugle par Bubsia. Complètement à l'aveugle, vraiment, les yeux bandés. Le gars a fait le jeu en entier pendant plus de 11 heures.
Ah.
11h30, hein, il me semble. C'était génial. C'est la première fois que je restais aussi longtemps sur le stream de quelqu'un sans m'arrêter.
Parce que tu voulais voir le bout et l'expérience en son entièreté.
Ouais, l'expérience. Et il faut se dire que même quand tu connais le jeu sur le bout des doigts, au point où ça en devient, c'est vraiment c'est de la mémoire musculaire. Tu le fais comme une machine. Si, à partir du moment où on t'enlève la vue, tu ne sais plus rien faire. Donc c'est vraiment une façon d'apprendre qui est très 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 différente d'un speedrun classique avec la vision. C'est pas simplement oui, alors là si je vais un tout petit peu vers la droite, je crois qu'il y a une étoile. Non non, le gars va contre des murs. Il entend, il sait que s'il tape là, ça va le décaler d'un certain nombre de pixels et que ensuite s'il ressaute de cette façon, ça va le redécaler d'un bon nombre de pixels. Enfin, il a vraiment appris un routing, on en revient sur ce mot pour lui permettre de choper 120 étoiles sur ce jeu.
C'est dingue.
C'était assez incroyable.
Un peu dans la suite un peu de ça, j'ai beaucoup un autre speedrun qui m'a beaucoup impressionné. Alors à moindre échelle, mais c'est faire Sekiro les yeux bandés. Là aussi, ça m'a beaucoup. C'est une run qui est récente. Hein. Je crois qu'elle avait été faite pour le. Alors, je sais plus si c'était les Awesome Games Done Quick ou les Summer Games Done Quick de 2019. C'est Mitch Rees qui fait ça. Sekiro, les yeux bandés, pareil. Quelle masterclass, franchement.
Et du coup, comme quoi, on peut être aveugle et quand même jouer aux jeux vidéo, comme quoi le jeu vidéo...
Exactement. Exactement. Il y a un speedrunner qui a pas de main et qui speedrun Pokémon, donc c'est tout à fait possible, si vous êtes en situation de handicap, de speedrunner, bien sûr.
Et c'est important de le rappeler. Pipo, un speedrun qui t'a inspiré, qui t'a donné envie, qui t'a fait rêver.
Il y a un Dark Soul à la guitare de Guitar Hero. C'était, je crois que c'est sur Dark Souls 3. Et je pense que c'est une période où je refaisais Dark Souls 3. Donc ça m'avait beaucoup marqué, mais c'était juste pour la performance. Mais en fait, moi, plus prosaïquement, c'est tout simplement la première fois que j'ai montré un speedrun à mes enfants. Et que à partir de ce moment-là, mon fils est devenu totalement fan des speedruns. Et on a une sorte de petit rituel le week-end, c'est que il a le droit de regarder la télé qu'à partir d'une certaine heure. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on choisit un TAS ensemble.
J'ai cru que t'allais dire qu'il a le droit de regarder la télé uniquement s'il a un certain PB, un certain TAS.
Oui, en fait, c'est ça. En fait, il a tous les soirs avant de se coucher, je lui lance une run de Castlevania 4, de Castlevania 1, et il a besoin de faire un certain temps. Non, non.
Non, il mange pas.
Non. Sinon, sinon, non, il mange pas. Voilà.
Pas de dessert.
Donc, non, non, c'est juste que voilà, on a comme ça notre petit rituel, et du coup, on s'est fait des séries entières de speedrun sur les Megaman. Dernièrement, on s'est fait tous les jeux Tiny Toons. Donc, d'une part, ça lui fait acquérir une certaine connaissance du jeu vidéo en général. Et puis surtout, bah, ça a un effet sur sa manière de jouer, dans tous les cas. Mais comme il est assez jeune, il a fallu que je lui explique que... il dit, ouais, mais maintenant, ce que je veux faire, c'est speedrunner. Je lui dis, mais le problème, c'est que, et c'est ce que rappelait l'Iniste au tout début, hein, c'est que, mais il faut d'abord le finir, le jeu, avant de chercher à le speedrunner. Mais il a pris des habitudes étranges, maintenant. C'est que, chaque fois qu'il joue à un jeu, il essaye de regarder s'il peut pas déclencher des éjections. Alors, juste pour préciser, pour ceux qui sauraient pas ce qu'est une éjection, grosso modo, une éjection, c'est que vous trouvez un moyen, alors, pareil, hein, je suis pas très bon pour les questions techniques, mais soit d'aller plus vite que l'affichage, soit lors d'un scrolling forcé, de vous faire oublier par la console, enfin par le qui fait que le jeu vous projette à l'autre bout du niveau pour dire il faut que je te remette au milieu de l'écran en fait. Et ce qui fait que par exemple si vous regardez des runs de Sonic en particulier, Sonic c'est un festival d'éjection. Vous voyez pratiquement jamais Sonic au milieu de l'écran et vous vous retrouvez à la fin du niveau en ayant vu Sonic 37 secondes à l'écran et encore quoi.
C'est vrai.
Mais c'est marrant que tu dises que tes enfants regardent du speedrun parce que à Interglitch, le dernier là qui a eu lieu, il y a eu une run, alors c'était sur Zelda 2, je crois, avec un papa et son fils sur une seule manette. Et c'était très mignon, très touchant, très rigolo de voir un papa comme ça et son petit speedrun les jeux. Donc peut-être pourquoi pas Pipo et Pipo Junior sur un seul et même jeu avec une seule et même manette et sur Super Metroid. Allez, let's go.
Non, on fera Super Mario Land ou Super Mario Bros, je pense.
Le challenge est un peu moindre. Et je viens de me rendre compte que je vous ai menti depuis le début. Je vous ai dit que je regardais pas de speedrun, mais c'est faux. Il y a un jeu vidéo qui me hante, je peux même aller jusque-là, c'est Binding of Isaac. Et il y a plein de speedrunners sur Binding of Isaac. Moi, je suis très fan de Sheyu, évidemment, qui fait pas de speedrun, mais qui est un expert du jeu. Et je me suis découvert à aller regarder des gens qui jouent au jeu et qui font des choses incroyables sur ce jeu, et notamment qui speedrunnent et qui font des temps incroyables. Ce qui fait que j'ai une connaissance du jeu qui est assez exceptionnelle. Mais par contre, c'est un jeu qui demande vraiment un savoir-faire. Et là, tout de suite, ça coince. Donc, je suis pas très forte. Je réussis une game sur 15. Mais quand j'y arrive, je sais comment le faire. Et c'est grâce à au speedrun, finalement, et au visionnage de vidéos sur le jeu, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le speedrun en général, sur votre expérience, sur... Vraiment, libérez-vous, dites ce que vous voulez.
Speedrun, en général, je dirais que si vous avez envie de... Si ça vous attire, si vous avez envie de vous tenter au speedrun, faites-le. Que vous soyez bon ou mauvais, faites-le, puis vous verrez plus tard pour vous perfectionner. Mais faites-le juste comme ça pour le fun. Faut pas avoir peur de tenter, et il faut pas viser le record du monde dès le début, ça ne sert à rien, personne ne fait ça.
Réussir à finir le jeu est un beau record.
Il y a beaucoup d'événements en France qui ont lieu. Parfois, c'est des choses qui sont à un niveau national comme Speedon, mais il y a des choses peut-être parfois un peu plus... artisanal, un peu plus local, où vous pouvez peut-être plus vous y intéresser, genre Interglitch. Évidemment, si vous êtes une femme trans, cis ou une personne non binaire, il y a des collectifs aussi qui existent, notamment Fast and Fabulous, dans lequel vous pouvez tout à fait vous intégrer si vous souhaitez avoir un espace safe pour commencer le speedrun. Et puis, comme c'est du speedrun et que c'est quand même, il y a beaucoup d'événements avec le marathon, n'hésitez pas à donner.
Que dire de plus que ce qu'ont déjà dit Niniste et Sacha sur le fait que c'est une manière de dire que justement quand un jeu vous plaît et que vous êtes prêt à y investir du temps. Je sais plus qui me une fois disait oui, mais c'est peut-être manquer de respect au jeu que d'essayer de le torcher le plus vite possible.
C'est l'inverse. Pour moi, exactement. C'est l'exact inverse.
Mais oui, mais c'est sûr. Justement. C'est il ne faut une connaissance incroyablement approfondie. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon run de Super Mario Land cet après-midi était totalement à chier. Parce que j'avais oublié des trucs, donc je vais retravailler mon Super Mario Land. N'ayez pas peur d'en parler, et si des gens vous disent que le speedrun ou le TAS, c'est pas du jeu, envoyez-les nous écouter, et puis on espère que ça les fera changer d'avis. Et toi,
Jennifer ? Et pour ma part, je dirais que cette émission était un peu difficile à préparer parce que j'avais aucune idée de ce que j'allais dire et de ce qu'on allait pouvoir dire. Finalement, ça a été très riche, très intéressant. Avec d'un côté un côté un peu universitaire avec Sacha et de l'autre côté Ninis qui pratique le speedrun. Et puis Pipo qui nous a apporté plein de choses avec son côté amateur du speedrun. Et puis finalement, je me suis rendu compte que moi aussi, j'en regardais avec Bini Kofizak. C'était un très beau moment d'échange, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Si. Merci à vous pour l'invitation. Et moi, c'est toujours un plaisir que de pouvoir échanger sur cette pratique qui, certes, est mon sujet de recherche, mais qui est aussi... Une vraie passion pour moi.
Et pour le mot de la fin, je dirais que vous soyez joueur de jeux vidéo occasionnel, régulier, hardcore gamer, speedrunner ou que sais-je d'autre, n'hésitez pas à en parler et à faire la publicité de ce que vous faites parce que le jeu vidéo a encore beaucoup de besoin de redorer son image, même si on en parle de plus en plus et qu'aujourd'hui ça va de mieux en mieux. On reste quand même toujours dans ce combat de mettre en avant nos pratiques culturelles favorites. Et ça, c'est le plus important, je trouve. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver tous ? Niniste, sur Twitch ?
Alors moi, on peut me retrouver sur Twitch au nom de Niniste, sur YouTube aussi, sur Niniste et sur Niniste Rediff, sur Twitter, sur Insta, tout ça. Si jamais ça vous intéresse, je suis en train d'organiser moi toute seule, en mode, comment tu disais, Sacha? Tu parlais des gros événements nationaux et tu parlais des petits événements artisanaux, voilà. Donc je suis en train d'organiser en mode artisanal, mais je le pense extrêmement sympathique, les Speedrun Awards à la fin de l'année, au mois de décembre. Ouais, ça va être vraiment, vraiment bien. Je prévois beaucoup de choses. Et si jamais ça vous intéresse, il y a un site qui s'appelle speedrunawards.fr. Voilà. Avec tout qui est écrit dessus. Parce qu'on a besoin de plus de visibilité dans le monde du speedrun. Et c'est un événement qui manquait, je trouve. Donc voilà.
Et Sacha, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Eh ben, on peut me retrouver essentiellement et même principalement, c'est sur Twitter.
Tu mets tes meilleurs t-shirts.
Je partage. Alors à la fois mon travail de recherche, mais j'ai aussi mon quotidien de prof doc que je partage et je commente aussi l'actualité un peu politique parce que je suis. C'est un peu un espèce de fourre-tout, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter à l'adresse Soul of a Grey Wolf. Voilà, tout simplement.
N'hésite pas à mettre le hat sur le chat pour ceux qui voudraient te suivre. Et je conseille de suivre Sacha parce qu'il a toujours des belles histoires à raconter, notamment des histoires de t-shirts, c'est chouette. Et moi, j'avais une question d'Iniste sur ton Instagram. Est-ce que tu mets des photos de ton chien qui a l'air trop beau ?
Oui.
On adore les photos d'animaux.
J'ai mis mon hamster aussi aujourd'hui. Ah. Il est vraiment que très mignon.
Que de raisons de te suivre.
Et j'ai plein d'histoires d'élèves à raconter aussi sur mon Twitter.
Et Pipo, toi, quand est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce qu'on te retrouve ?
Bah moi, vous pouvez me retrouver régulièrement sur les lives de MO5. Sinon, pour les réseaux sociaux, moi, c'est Blue Sky ou Mastodon. J'avais plus la patience de supporter Twitter. Donc voilà, Blue Sky, voilà, ça doit être un peu comme Sacha. C'est un mélange de politique et de arrachage de cheveux sur... les bugs actuels de Super Mario Land sur Switch. Et ça me rend complètement fou parce que j'ai l'impression d'être le seul à qui ça arrive. J'ai cherché, j'ai regardé sur Internet si des gens avaient aussi des problèmes avec la version Switch de Super Mario Land. Et a priori, il n'y a que moi
qui ai des problèmes.
Mais même pas, puisque c'est la version émulée. C'est là. Et je me suis dit, est-ce que certains bugs que je viens de trouver, je peux les refaire? J'avais un bug bloquant où, en détruisant un bloc dans le dernier niveau, le 4-3, ça bloquait le jeu. Je me suis dit, est-ce que ça me ferait pareil avec la cartouche? Donc j'ai pris la cartouche, j'ai essayé sur mon analog pocket et rien du tout. Donc, je ne sais pas ce qui se passe.
Et donc, pour ma part, vous pouvez me retrouver toujours sur psychequick.com et bien sûr sur les live MO5 ponctuellement, parce que moi, j'en fais pas non plus beaucoup. Allez, ciao tout le monde.
Ciao, bonne soirée.